sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et te disent que c'est de l'art.
C'est ça être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Et bonjour, bienvenue dans l'émission sur les chemins de la création. Une de plus pour vous ravir les oreilles. Aujourd'hui, je suis en charmante compagnie de Léa et de Thomas. Et de Alice, bien sûr, qui nous gère toute la réalisation de cette super émission. Bienvenue et bonjour.
Et bonjour.
Et bonjour.
Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, dire qui vous êtes? Ce que vous faites, peu importe. Ouais. Présentez-vous comme vous le voulez.
Ok. Moi, je m'appelle Léa Chiquitou. Et je suis aujourd'hui, j'ai une sorte de double activité. Je suis directrice artistique de la compagnie du Zézargo. Donc, c'est une compagnie qui fait des spectacles théâtraux et musicaux. Alors pour le moment principalement jeune public, mais ça tend à s'ouvrir. Et puis il y a aussi tout un volet de chants sur le territoire du Pic-Saint-Loup et de l'Hérault, de chants occitans, d'ouvrir des espaces de chants. Voilà, ça s'est mené plutôt par ma collègue Laure. Et d'un autre côté, je suis musicienne dans un groupe qui s'appelle Poplité. Voilà, c'est un groupe, on est 5 femmes chanteuses et percussionnistes et on écrit ensemble, on joue ensemble. Voilà, et après je navigue aussi dans d'autres petites choses, mais c'est ça ma principale activité.
Ok, super. Et toi Thomas, qui es-tu? Que fais-tu?
Et bonjour à tous, moi je suis Thomas Aignon, j'ai plusieurs casquettes aussi, mais je pense que je vais parler principalement aujourd'hui de mon activité d'ingénieur du son, et à savoir celle-ci qui a commencé dans les milieux du studio et qui a ensuite évolué dans les milieux du spectacle vivant, et notamment en fait j'accompagne souvent des compagnies qui sont dans des processus créatifs, dans des CNAREP, des centres nationaux, des espaces de rue et d'espaces publics. On verra si je peux mettre une petite pierre à l'édifice dans la discussion aujourd'hui avec vous, mesdames.
Avec plaisir. De toute façon, comme d'habitude, cette émission, c'est une discussion libre d'une trentaine de minutes où on est juste là pour parler ensemble, se raconter et on a le droit de dire des choses et penser différemment demain. Bref, rien n'est figé, tout est en mouvement. C'est le propre de la création, me semble-t-il. Cette émission est à l'image de la création, ça peut être freestyle. On peut parler peu si on en a le besoin, on peut parler beaucoup, on peut rire, on peut pleurer, on peut faire des bêtises. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de savoir, comme d'habitude, quand est-ce que la création entre dans vos vies, respectivement? Est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose?
Moi, quand j'étais gamine, je faisais du cirque. Et j'ai commencé à faire du cirque à mes 6 ans. Et parce que je regardais un circassien incroyable qui s'appelle Mathurin Bolz. Et j'étais en émerveillement devant ce qu'il faisait. Et un jour, il m'a dit « Mais vas-y, va en faire toi aussi ». Et je me suis retrouvée comme ça à créer des spectacles en tant qu'enfant tout le temps. Et quand j'étais plutôt au lycée, je me suis retrouvée vraiment avec une troupe où on se retrouvait pendant une semaine, on montait un spectacle. Il fallait sortir vraiment des choses de nous. Et moi, c'est venu me chercher à ce moment-là. Et après, j'ai fait des études de théâtre et puis j'ai tout laissé tomber. Je suis partie faire du maraîchage. Et j'étais dans un truc beaucoup plus terre à terre. Et finalement, c'est en quittant la ferme que j'ai eu besoin de J'ai besoin de raconter, en fait. J'ai besoin de raconter, de continuer à parler, à transmettre ce que j'avais fait qui me semblait important. Et du coup, pour ça, j'ai eu besoin de retrouver la création.
C'est rigolo parce que du coup, tu passes de la culture à la culture.
Tout à fait.
Ça me pose question, moi, cette bascule de la culture à la culture, c'est rigolo. Enfin, c'est des mots, mais ça n'a, c'est pas des mots au hasard non plus. Et je sais pas, est-ce qu'il y aura un parallèle? Est-ce que tu trouves qu'il y a un parallèle à faire entre le maraîchage et le spectacle ou pas du tout?
Waouh.
Tu dis, j'ai eu envie de raconter.
Bah, c'est juste qu'on nourrit. Après, on nourrit différents endroits. Quand j'étais maraîchère, je nourrissais les ventres. Et puis aujourd'hui, j'essaie de nourrir plutôt les têtes et les esprits. Après, en termes de concret, pour moi, je suis passée d'un monde à un autre qui n'ont vraiment rien à voir, dans le sens où quand on cultive la terre, on est attaché à la terre, on est ancré dans un endroit et en fait, la vie de ce qu'on produit dépend du fait qu'on soit là, en fait, qu'on soit là et présent, alors qu'aujourd'hui, je passe ma vie sur les routes. et c'est vraiment très différent. Après, quand j'étais à la ferme, moi, je faisais de l'accueil culturel à la ferme et c'était important pour moi de mêler les deux, mais plutôt parce que c'était mes deux endroits à moi.
Ok. Ouais. Et en même temps, quand t'es en spectacle, t'es aussi obligée d'être présente comme quand t'es en train d'arroser ta salade,
oui, ça,
quoi.
C'est sûr,
ouais. Je trouve ça. Voilà.
Mais moi, du coup, pour faire le lien entre les deux, quand j'ai quitté la ferme, j'ai écrit un spectacle sur la ferme. Donc aujourd'hui, j'ai mon spectacle dans lequel je suis maraîchère. Et je suis Léa maraîchère et je raconte aux enfants et aux autres et aux plus grands qu'est-ce que c'est cette culture de la terre. Donc voilà, moi, j'ai fait ce lien-là. Voilà.
Super. Et toi, Thomas, tu saurais te souvenir quand est-ce que la création vient te chatouiller quelque part?
Je dirais avant de partir sur les arts, je crois que c'est quand j'ai mis la main sur une casserole.
Ouais.
Et cuisiné sans recette, en fait. Une gamin, un dos, je ne sais plus bien, mais je crois que c'est mon premier... Premier souvenir de tiens, en fait, il n'y a pas besoin de suivre des éléments, une liste, et ça, j'ai l'impression que ça irait bien, et ça sent bon, et ah, je sais pas, je crois que si je mets tout ça ensemble, ça peut fonctionner. Ouais, la part d'improvisation qui, quand on écoute, alors après, au début, on n'ose pas parce qu'on se dit, mais peut-être ça va être dégueulasse. Et en fait, quand on s'écoute, au final, allez, une fois sur dix, c'est pas terrible, mais 9 fois sur 10, c'est génial, quoi. Et en fait, le petit instinct qui est là,
ouais,
qui fait dire, oui, je vais dans la bonne direction. Voilà, ça se part de création là. Je pense que c'est la première chose que j'ai ressentie dans ma vie avant de penser à la musique et à de la peinture, parce que j'ai fait un peu de peinture aussi, mais. Et la part de création qu'on peut avoir quand on est comme Alice, hein, c'est bien ça, en train de mixer, de tourner des potards pour régler du son, des médiums, des aigus. Enfin, voilà, il y a toute une part de créativité partout, mais je pense que mon premier souvenir, c'était au niveau de la cuisine, effectivement.
Expérience culinaire, ouais. Gamin, quoi.
Ouais.
Et du coup, expérience culinaire gamin, et ensuite. Peinture ou ensuite qu'est-ce qui s'est passé?
Ensuite peinture, ensuite musique, ouais.
Ensuite peinture, et donc peinture, pareil, expérience...
C'était pas trop créatif, je pense. Okay. Moi, j'ai appris à prendre des cours de dessin au trait et reproduire finalement quelque chose qui existe. Donc il n'y a pas... je me rappelle pas d'avoir fait une grande part de créativité dans le dessin à la base. C'est venu plus tard, mais bien, bien plus tard. C'est pas la première expérience.
Ok, et après, la musique, comment tu y arrives?
Alors, la musique, on touche une guitare qui traîne, on touche un harmonica qui traîne, un caron qui traîne, et puis on se dit, complètement autodidacte, hein, vraiment. J'ai pris des cours une fois bien plus tard dans ma vie, dans un conservatoire avec quelqu'un qui est en train de m'interviewer. mais à la base, c'est vraiment, vraiment très autodidacte. Quoi. Le métier d'artiste a été autodidacte pour moi. Le métier d'ingénieur du son, lui, il a requis d'aller faire une formation poussée en studio. Mais je ne regrette pas, parce qu'en fait, c'est génial de... Enfin, ce que je veux dire, quand je dis je ne regrette pas, je ne regrette pas d'avoir fait une formation autodidacte pour tout ce qui est aspect musical, et d'avoir fait une formation carrée dans les lignes pour le boulot de technicien du son, d'ingénieur du son, parce qu'en fait, je crois que là, pour le coup, je vois vraiment l'intérêt d'aller dans les rails pour après... pour après partir sur l'aspect créatif et fin. Voilà.
Du coup, oui, la part de technique et la part de trucs, comment on pourrait expliquer ça ? Hyper cadré, hyper noir sur blanc, technique, quoi. Et après, le côté un peu plus fantaisiste, où tu peux mettre ton âme à toi quelque part et être plus dans la création.
C'est ça.
T'opposerais un peu technique et création.
Il faut commencer par la technique à fond, quoi. Alors après, je pense qu'on se rendra pas forcément compte de ça sur des projets entre guillemets qui nécessitent pas une... Enfin, si on veut retranscrire une voix, par exemple, comme on est en train de faire dans ce studio, j'ai pas une grande part de créativité, je pense. Alors peut-être que Alice me contredira, mais si je me retrouve à mixer un groupe de musique avec beaucoup d'instruments, et là il faut effectivement se mettre d'accord avec la décision artistique pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire ressortir, en fait. Parce que les musiciens, des très bons musiciens, vont me donner moins de boulot de mixage, mais il y en aura quand même. Et en fait, on peut plus ou moins insister sur un aspect ou l'autre. Voilà, ça dépend vraiment de la ligne artistique, de la direction artistique, j'oserais dire, qui est demandée, quoi.
Est-ce que ça t'évoque quelque chose, Léa, ça soit par rapport à la technique et la part complètement fantaisiste, créative, je sais pas.
Ouais.
Comment tu te situes ?
Ben, moi, c'est un peu particulier parce que, disons que j'ai travaillé là. Technique du théâtre, parce que j'étais au conservatoire de théâtre et à la fac en art du spectacle. Et donc là, j'ai travaillé une sorte de technique du jeu d'acteur, de tout ça. Par contre, moi, dans la musique, c'est pareil. J'ai appris à chanter dans la rue, enfin, avec les chorales militantes, avec tout ça. Donc là-dessus, j'ai aucune technique. Sauf que derrière, c'est un groupe de musique... De musiciennes professionnelles et super compétentes qui sont venues me chercher. Alors elles sont venues me chercher parce que je chantais et qu'on s'est rencontrés là-dedans. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire de la percussion dans un groupe et j'ai jamais appris ça. Et je sens que je manque de technique pour pouvoir être créative. Du coup, moi, c'est un autre endroit où là, on a fait une création toutes les cinq ensemble. Il y en a pas une qui écrit, chacune est là. Et moi, je sens que j'arrive à apporter sur... j'arrive à écrire, j'écris mes textes, je ramène des choses. Et par contre, dans la création, je me sens limitée à un endroit parce que quand on est tout ensemble, j'ai pas forcément les connaissances rythmiques, harmoniques et tout ça pour vraiment prendre part à la création à un certain endroit. Donc je me forme petit à petit... aussi avec ces personnes-là, avec les codes qu'elles ont, elles. Et du coup, on apprend à fonctionner ensemble et moi, je trouve mes marques là-dedans. Mais voilà, je sens qu'il me manque de la technique. Et aujourd'hui, ça, c'est mon objectif à moi, c'est d'aller me former un peu plus. Donc voilà, j'ai commencé autodidacte et maintenant, j'ai besoin de me former pour maîtriser et aller plus loin dans la création.
Super.
Mais j'ai l'impression quand même que d'avoir commencé en autodidacte, ça permet de, dans l'aspect artistique, moi, de ce que j'observe de la plupart des artistes que j'accompagne sur le plan technique, j'ai vu plein de parcours différents et en fait c'est tout autant intéressant d'avoir dans des compagnies des gens qui sont issus de conservatoires, qui sont bien dans les rails, et des gens qui sont issus de la rue, Et en fait, ça amène une part de créativité de ce que j'observe complètement différente.
Oui, c'est sûr. Et moi, dans le groupe, il y a justement des musiciennes qui, elles, sortent de conservatoire, qui ont une connaissance musicale très forte. Moi, je sais qu'effectivement, j'amène autre chose. Et on est très complémentaires là-dessus. Mais voilà, je pense que du coup, moi, j'ai besoin d'aller un peu plus quand même vers cette technicité-là. Après, je sais où je me situe aussi et ça me va bien. Moi.
Carrément. Carrément. Puis c'est souvent qu'on a besoin de travailler là où, enfin, pour trouver ce point d'équilibre, il nous manque ça. Mais par exemple, des gens de conservatoire qui ont fait 10 ans, 15 ans, hyper cadrés, avec une technique incroyable et tout, et ben parfois, pour le lâcher prise, pour arriver à dire, à faire freestyle, à faire comme ça vient, comme ça, un peu plus éparpillé, etc., un peu plus autodidacte. Ça leur demande un effort et ils en rêvent aussi. Donc il y a toujours ce fameux point d'équilibre qui nous titille quoi tout le temps. On est sur le fil. Est-ce qu'on tombe d'un côté ou de l'autre? Qu'est-ce qui nous manque? Ouais. Et du coup moi j'aimerais, je serais curieuse de savoir dans vos imaginaires. Qu'est-ce que serait la création idéale pour vous? Est-ce que vous avez une idée, un truc qui vous dit « Ah, ça serait vraiment mon idéal, quoi ?»
Bah, moi, j'ai envie de... Là, par exemple, moi, je suis en train de rêver à une nouvelle création pour moi et j'aurais envie de faire cette création-là avec peut-être 10 ou 15 personnes. J'aimerais... Parce que dans mon processus de création-là, jusqu'à présent, quand j'ai écrit, par exemple, mes premiers spectacles sur la ferme, j'ai écrit à partir de mon histoire, c'est moi qui ai écrit. J'ai été accompagnée pour ça, mais c'était assez intime et personnel. Et là, je vais écrire à partir d'ateliers d'écriture que je fais, des paroles que je recueille, et en vrai mon rêve ce serait de pouvoir avoir toutes ces femmes, puisque c'est que des femmes, sur scène avec moi, et maintenant bon bah la problématique elle est toujours financière. Mais oui, moi j'aimerais pouvoir avoir du temps et du monde et vraiment avoir du temps, et ça c'est Je peux essayer de prendre du temps, sauf que la réalité est aussi que bah, j'en ai pas tant, que je dois vivre, que je dois faire mon intermittence. Donc il y a un peu ces choses-là là, qui sont questionnantes. Ouais.
Du coup, l'idéal, ce serait du temps et plein de monde.
Ouais, du monde.
Et plein,
que...
et plein de moyens financiers pour ce projet.
Oui, bah, c'est toujours ça. Oui. Hein. Moi, je vois là, avec Poplité, notre dernière création, bah, en fait, on a été accompagnés. Du coup, on a pu écrire dans des lieux qui nous accueillaient dans des bonnes conditions. On était rémunérés pour le faire. Et en fait, ça change tout.
Ouais, ça change tout.
Ça change tout parce que moi, j'aime bien créer chez moi, dans mon salon, dans les endroits que je trouve. Et c'est super de le faire. Mais en termes de... ouais, quand on a des bons moyens quand même, c'est... ouais, ça change la donne.
Ça,
ça
ouvre un espace pour
ouais.
ça.
Ouais, ouais.
Ou, ouais.
Oui, oui. Et carrément. Puis, bah, en fait, on a besoin de vivre, donc voilà.
Bien sûr. Et toi, Thomas, est-ce que tu as envie de nous confier un idéal?
Ouais. C'est peut-être, l'idéal, c'est peut-être ce que j'observe. Quand la créativité arrive, en fait, c'est... c'est encore effectivement une histoire de temps, comme j'ai entendu. Moi, je préférais même dire d'ennui. J'ai l'impression qu'il faut que dans ma vie, il y ait une part à l'ennui pour que... allez, là, il y a quelque chose qui va se passer là. Donc c'est précisément à ce moment-là que je vais avoir envie de composer, que je vais avoir envie de coucher des notes sur le papier, que je vais avoir envie de prendre mon ordinateur, mon synthé, et de prendre un morceau que j'ai commencé à mixer il y a 3 semaines, et que j'ai envie de terminer de mixer, mais j'ai des oreilles neuves, j'ai une place à l'ennui, et voilà. Alors que si je fais ça toute la journée, je suis plus qu'un robot, j'ai plus de créativité, quoi. Et donc je pense que oui, effectivement, ce rapport-là au temps et j'aime bien dire le droit à l'ennui, voilà, ça, ouais. Ça semble important d'avoir ça. Et du coup, en termes d'idéal, je pense que c'est ça, c'est d'avoir un peu de temps pour cette créativité-là.
Du temps, de l'ennui, un cadre parfois pour pouvoir faire dans des bonnes conditions, tout ça, ça nous fait une super recette de création idéale.
À ne pas suivre tout le temps.
Voilà.
C'est
ça, parce que moi, je crois quand même... Le moment où j'ai le plus écrit, c'est dans ma voiture. C'est quand je fais de la route et que je suis là et tout d'un coup, je me mets à chanter un truc et je m'enregistre d'une main avec mon téléphone. Je sais, il ne faudrait pas le faire, mais c'est le moment où moi, il y a le plus de choses qui viennent. Mais c'est la différence entre les idées qui émergent, comme tu dis, tu vois, avec l'ennui, avec tout ça... Moi, c'est pareil, là, j'ai eu un peu de temps parce que l'hiver, je travaille moins. Et du coup, ce qui me trottait dans la tête depuis longtemps, ça a pris de plus en plus de place. Et ça y est, maintenant, je le mets en place pour que ça avance. Mais il y a ce truc-là des circonstances pour que ça émerge. Et après, pour moi, il faut les conditions pour que ça s'écrive vraiment et que ça se pose, quoi.
Carrément. Et tu évoquais aussi la place de la femme dans ton rapport à la créa aussi. Tu as évoqué ça. Est-ce que ça... Tu as dit que c'est avec beaucoup... Enfin, que des femmes. Est-ce que ça a une importance ou pas pour toi
Oui, il se trouve qu'aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des femmes, hormis une ou deux personnes qui m'accompagnent dans la création... dont mon compagnon, dont des amis qui fabriquent des décors, qui sont là. Mais en tout cas, sur scène, dans Poplité, on est 5 femmes à jouer et écrire. Et c'est pour nous, c'est une des bases de ce qu'on fait. C'est que si un jour on doit remplacer une des musiciennes, ce ne sera pas un homme qui viendra, c'est sûr. Et là, moi, dans ce que je... commence à écrire, j'ai envie de parler de la colère. J'ai envie de parler de ça. Et c'est une thématique qui m'est venue, moi aussi, du groupe de parole non mixte duquel je fais partie et dans lequel on a abordé ces choses-là. Donc c'est un peu naturellement que ça se fait comme ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai travaillé dans le milieu agricole, je me suis quand même retrouvée très 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 entourée d'hommes et voilà, je crois que j'ai envie d'autre chose et les sujets que j'ai envie de traiter aujourd'hui c'est plutôt entourée, alors je dis de femmes mais c'est surtout en mixité choisie mais sans hommes cisgenres, voilà. Parce qu'il y a une diversité quand même là-dedans. Et après, par contre, je travaille aussi avec un groupe qui s'appelle Les Tambours du Père Ned, où là, on est une bande d'amis et où voilà, on remue, on est tous les genres, tout ce qu'on veut, et je me fais très plaisir avec tout ça aussi. Mais en tout cas, là, moi, dans ce dont j'ai besoin, dans ce qui me touche en ce moment, c'est de travailler avec des femmes dont j'ai envie. Ouais.
Super. T'as dit que là, t'avais envie de parler de colère, est-ce que la colère, certaines colères que tu peux ressentir, ce serait moteur dans la création?
Et oui, carrément. Et pour moi, dans la vie, j'ai souvent été triste de ce qui se passe. Et quand je suis triste, juste, je suis triste. Et j'observe et je me sens un peu impuissante. Et cette impuissance-là fait naître de la colère. Et souvent, la colère, elle me pousse à agir. Donc ça marche. Et j'ai commencé par écrire un morceau sur la colère dans Poplité, avec mon groupe Poplité, qui est donc quelque chose que moi, je chante et que je porte accompagné de 4 autres comparses avec moi. Et à chaque fois que je le chante en concert, les réactions que j'ai en face de moi, les retours que j'ai derrière, m'ont fait me dire qu'il y avait vraiment quelque chose à explorer là-dedans. Parce que, voilà, moi, la colère, elle me porte, mais des fois aussi, elle m'épuise.
Elle t'emporte.
Ouais, voilà, elle m'emporte, elle m'épuise et j'ai besoin d'en faire quelque chose. Et voilà, et je crois qu'en ce moment, dans ma vie, moi, je vis des choses qui font que cette colère-là, elle s'apaise. Et du coup, là, j'ai envie d'explorer ça, en fait. Qu'est-ce qui construit le fait qu'on soit en colère? Qu'est-ce qui construit cette colère? Et qu'est-ce qu'on arrive à faire collectivement pour que ces choses-là, pour qu'il n'y ait plus d'impuissance et que du coup, la colère, elle puisse s'écouler.
Merci. Toi, Thomas, est-ce qu'il y a des émotions fortes comme ça qui peuvent être moteurs ou un état particulier ou quand t'es dans, est-ce que tu as observé des états ou des émotions, quelque chose de cet ordre-là ou pas?
Après, ça dépend de peut-être de l'activité dans laquelle je me lance. Pour, je sais que par exemple pour une activité de mixage, il faut avoir, voilà, faut que je sois bien reposé, la tête bien sur les épaules, pas de stress extérieur. Il faut que je sois le plus neutre possible finalement. Quoi. Effectivement, la colère peut être une émotion qui peut être déclencheur. Quand on est dans une activité de composition, en écriture, c'est pas quelque chose dont je pourrais parler, mais j'imagine aussi. Mais d'une manière générale, j'ai envie de dire que toujours beaucoup de repos et de la zénitude, moi, c'est là où je me sens le mieux. Hein. Enfin, d'une manière générale.
La paix.
La paix.
Ouais. Trop bien. C'est trop bien la paix aussi.
Ça semble évident. Enfin, ça semble.
Et par exemple, si on te dit, fais-nous une créa son là sur tel projet, t'as du visuel en face sur scène et tu dois. On te laisse une part de créa. Est-ce que tu vas t'appuyer sur les émotions qui se passent sur le plateau?
La compo, c'est souvent dans un milieu clos, ce qui me concerne.
Okay.
Mais les quelques fois où ça m'est arrivé, ça m'arrive pas assez souvent. J'aurais peut-être pu répondre à ça dans la question sur la création de l'idéal tout à l'heure. Les quelques fois où ça m'est arrivé de composer en situation de live, c'est effectivement avec des compagnies qui demandent plus qu'un ingé son, demandent un musicien et un ingé son. Et ça, c'est vrai que c'est assez grisant, parce qu'on peut se nourrir, donc ça demande d'avoir un calme intérieur, mais ça demande l'adrénaline aussi, qui est provoquée par la situation, peut aussi amener des créations fantastiques. Alors des fois c'est nul à la fin, mais c'est arrivé que ce soit vachement bien.
Mais du coup c'est, oui, parce que ça rejoint là pour le coup la boucle est bouclée avec ce qu'on disait au tout début de cette émission, entre la technique et le freestyle et cette espèce de chose qui nous attrape là où il y a une nécessité, le fuego, si je puis dire, et ben il y a ce parfait mélange des deux et cette expérience culinaire qui parfois est formidable et parfois fait un peu n'importe quoi, mais bon, parfois ça nous amène aussi ailleurs, quoi. C'est le chemin qui compte aussi.
Si une fois sur dix le plat est acheté et que 9 fois sur 10 c'est bon, bah, j'ai envie de dire,
tant mieux.
Si on sort 9 bons morceaux ou 9 belles pièces ou 9 beaux bouquins, on a le droit d'en jeter un, j'ai envie de dire.
Exactement. Exactement. Et en plus, il y a toute la subjectivité qui vient en plus se poser sur ce, comment on appelle ça, bref, sur cette pensée là quoi. Donc voilà. Allez, on va glisser tout doucement vers la fin de cette émission et pour la fin, on va donner un mot, le premier mot qui vous passe par la tête, un seul mot, le mot de la fin, et qui représenterait votre rapport à la créativité.
Joie.
La joie pour Thomas, trop bien.
Moi je dirais l'envie.
Et l'envie, de la joie, de l'envie et une expérience culinaire et on est bon. Et on a la recette de la création. Merci beaucoup Léa et Thomas.
Merci.
Et merci à Alice Rollet à la réalisation.
Merci.
Et à tout bientôt sur les chemins de la création. Sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça me met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.